Ce qui est sûr, c'est que le camp de Maya Sandu se présentait probablement de manière plus divisée que celui d'Igor Dodon, qui a réussi à capitaliser un certain nombre de voix. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est finalement la capacité d'Igor Dodon à avoir du coup les quelques milliers de voix qui lui manquent, si le taux de participation est égal au celui du premier tour. Si le taux de participation est égal, probablement le troisième candidat qui a eu 5 ou 6%, bien la question sera le report des voix de M. Choubassenko en faveur d'Igor Dodon ou non. Ça, c'est l'une des clés du scrutin. Mais la principale clé du scrutin, très vraisemblablement, reste le taux de participation. Si le taux de participation reste celui du premier tour, moins d'un Moldave sur deux s'étant déplacé, alors il est assez probable qu'Igor Dodon parvienne à emporter l'élection présidentielle. Si en revanche, un certain nombre de nouveaux électeurs dans les villes, à différents endroits, se mobilisent, alors Maya Sandu a probablement une chance de l'emporter, mais ça dépendra beaucoup en effet de la mobilisation de son électorat.
En janvier, des manifestations avaient éclaté suite à une affaire de corruption, celle dite du milliard volé. Comment définir l'impact que cela a eu sur le premier tour de l'élection présidentielle ?
C'est, je pense, le rejet de l'ancienne génération. C'est-à-dire la génération des gens qui étaient au pouvoir entre 2009 et 2016, à savoir ce qu'on a appelé de manière large l'Alliance pour l'intégration européenne. Et ce qui est frappant, c'est que Yuri Lanka, ancien Premier ministre, a eu un résultat extrêmement faible. Mihai Gimpu, ancien président de la Moldavie, a lui aussi eu des résultats de l'ordre de 2%. Marianne Lupu, un ancien président par intérim, ne s'est même pas présenté. Il s'est désisté en toute fin de période en faveur de Maya Sandu. Voilà. Je crois que la première chose, c'est effectivement la marginalisation de l'ancienne génération des pro-européens. Si on regarde les résultats du scrutin, ce qui est absolument frappant, c'est que sur la dizaine de participants, deux participants, Igor Dodon et Maya Sandu, ont cumulé à eux deux légèrement plus des trois quarts des votes.
Et est-ce que le clivage pro-russe, pro-européen subsiste toujours ?
Oui, si on regarde les lignes de fracture entre Igor Dodon et Maya Sandu, les principales questions qui se posent concernent la volonté ou non d'aller plus loin avec l'accord d'association qui s'est mis en place entre l'Union européenne et la Moldavie. Ce qui ne veut pas dire que le camp d'Igor Dodon rejette toute forme de relation avec l'Union européenne. Igor Dodon n'est pas favorable à l'accord d'association, c'est-à-dire à l'ensemble des règles, notamment concernant le libre-échange entre l'Union européenne et la Moldavie, à la différence de sa rivale Maya Sandu, mais il est en revanche favorable à un accord de facilitation de visa entre l'Union européenne et la Moldavie. Donc on voit que oui, ce clivage entre Union européenne et Russie est important, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au-delà de ce clivage-là, ce n'est pas le seul clivage qui régit la vie politique moldave, et que le sort de l'oligarque, M. Plahotniuc, est également important dans ce paysage politique, même si c'est une personnalité qui n'a pas participé de fait au scrutin.
Et alors justement, vous avez dit qu'il y avait d'autres clivages, quels sont-ils ?
Si on regarde les principaux clivages, donc, il y a la question européenne, il y a probablement également la question des valeurs sociales, qui se rapproche d'une ou d'autre candidat, le camp de Maya Sandu étant peut-être plus urbain, plus attaché des questions de lutte antidiscrimination, là où l'électorat d'Igor Dodon sera plus en phase avec des valeurs traditionnelles de l'orthodoxie, qui va d'ailleurs avec l'électorat de M. Dodon peut-être plus âgé que sa rivale, certainement plus rural également, plus proche également des minorités russophones. Donc on a là voilà quelques-unes des lignes de clivage entre Igor Dodon et Maya Sandu.
Quel est le pouvoir réel du président en Moldavie ? On sait qu'il n'a pas forcément un énorme pouvoir, mais en même temps, là, il aura la légitimité d'être élu au suffrage universel.
Effectivement, la grande originalité des élections actuelles, c'est le fait que le président qui, précédemment, avait plutôt un rôle d'arbitre des institutions, quand je dis précédemment, c'est en gros ces 20 dernières années, aujourd'hui devient moins un arbitre, finalement, qu'un acteur à part entière du jeu politique. Un acteur avec plus davantage de levier. Le fait d'avoir passé les élections au suffrage universel direct était l'une des demandes fortes des manifestants à l'hiver dernier. Il aura certainement davantage de pouvoir à une condition près qui concernera évidemment le fait de maîtriser ou non le Parlement. Car le président seul ne pourra pas faire grand-chose sans le Parlement. Ça, c'est la première source de limitation de son pouvoir. Et peut-être l'autre difficulté est liée à la personnalité de Vlad Plahotniuc, qui est le principal oligarque de la République de Moldavie et qui lui-même détient un certain nombre de leviers dans la presse, dans le monde des affaires, de manière à imposer un certain nombre de ses intérêts. Et par ailleurs, le président, quel qu'il soit, aurait à gérer un pays qui est très largement polarisée, qui constitue également l'une des difficultés du prochain président.